matin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. À quelques jours du Salon de l'agriculture à Paris, qui réunit d'ailleurs des professionnels du monde entier, nous allons nous interroger comment nourrir la planète et les 7 milliards de voisins, qui seront d'ailleurs plus de 9 milliards et demi dans 30 ans. Les agriculteurs occupent les deux tiers des terres habitées, mais la population à nourrir sera majoritairement en ville. Voilà pourquoi ils sont les oubliés de nos assiettes. Partout, les paysans aimeraient qu'on les écoute davantage. Semences, pesticides, irrigation, consommation de viande, propriété des terres, guerre commerciale avec l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Les débats idéologiques dans les pays riches sont-ils une futilité dans les pays où l'on a encore faim? 750 millions de personnes souffrent actuellement de la faim dans le monde. Nous allons en débattre avec Sylvie Brunel, géographe. Bonjour.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous enseignez à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez passé près de 20 ans dans des ONG pour lutter contre la faim dans le monde. Et vous publiez Plaidoyer pour nos agriculteurs. Vous ne parlez pas que des agriculteurs dans les pays pauvres d'ailleurs, hein. Vous parlez aussi des agriculteurs en France. Maureen Joran est également avec nous dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du plaidoyer souveraineté alimentaire à l'ONG CCFD Terre Solidaire, c'est le comité catholique contre la faim et le développement. Bertrand Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National pour la Recherche Agronomique. Vous êtes en particulier, vous travaillez en particulier sur la prospective. Alors, comment serons-nous nourris demain? C'est le genre de question à laquelle vous pouvez évidemment apporter des réponses. Et chez vous, les voisins, quelle agriculture face à la mondialisation? Comment sont traités les agriculteurs dans votre pays? Quelle est leur image? Et quant à vous, bien sûr, vous nous appelez où que vous soyez, y compris du village. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. N'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Alors je vous lis quelques messages qui ont été postés sur le fil Facebook d'auditeurs. Amé qui est à Dakar nous dit le problème vient du fait que l'agriculture n'est plus une priorité. On voit par exemple des publicités mettant en valeur le travail de bureau. Les agriculteurs ont peu d'opportunités. Voilà, il y a vraiment consensus de nos auditeurs sur l'image des agriculteurs. Djibril qui est à Kaï au Mali nous dit à cause de l'urbanisation, personne ne veut rester un petit paysan. Tout le monde veut un emploi respectable. Siaka Ketabamako, lui, nous écrit ceci. La plupart de nos produits agricoles proviennent des paysans qui veulent abandonner leurs terres à la recherche d'une vie de luxe dans la capitale. Dès lors, nous sommes obligés d'importer les produits dont nous avons besoin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces constats sur l'image des agriculteurs, Sylvie Brunel.
Oui, il y a vraiment un énorme problème mondial vis-à-vis de ceux qui nous nourrissent. Dans une grande partie des pays dits en développement, ils sont oubliés, méprisés, ils ne sont pas partie intégrante des stratégies de développement, ou alors on se tourne plutôt vers des grandes structures, on oublie cette petite agriculture familiale paysanne qui joue un rôle considérable pour, je reprends un terme qui fait plaisir à Maureen Joran, la souveraineté alimentaire de ces pays. Et puis, chez nous, dans les pays riches, par exemple en France, eh bien ils ne cessent d'être critiqués, ils ont réussi à nourrir la France, ils ont réussi à en faire un grand pays exportateur et on les accuse d'être des pollueurs et des empoisonneurs sans se rendre compte des efforts
donc
qui sont faits dans les campagnes.
Méprisés au sud et insultés au nord. Donc, ça serait ça si on voulait caricaturer pour
oui,
vous.
Et je pense que jamais que Amé, Djibril et Siaké ont raison. Il y a vraiment un problème vis-à-vis du statut du monde agricole aujourd'hui dans le monde.
Tabello nous écrit d'Abéché au Tchad et il nous dit il estime qu'il n'y a pas assez de terres chez lui, qu'il faudrait encourager la population urbaine à construire en étage. Maureen Joran.
Ah bah c'est sûr que, alors je connais pas le cas du Tchad en particulier, donc je saurais pas parler de la répartition des terres dans ce pays, mais la question de l'accès à la terre, en tout cas pour les paysans et les petits producteurs, est un enjeu majeur aujourd'hui en Afrique.
Oui, mais c'est pas parce que l'Afrique manque de terres.
Alors non, en effet, c'est pas parce qu'elle manque de terres, mais c'est qu'il faut sécuriser, assurer que le petit producteur puisse produire sur sa terre, qu'il n'ait pas le risque demain d'avoir un accaparement de terre ou de forts impacts liés à des constructions d'infrastructures, par exemple, sécuriser que demain et à moyen terme, il puisse développer sa production sur sa parcelle. Je voulais aussi rebondir sur ce constat qui a été fait que l'agriculture n'est plus une priorité. Et je pense que c'est là aussi l'une des origines des différents problèmes qu'on va évoquer aujourd'hui. En effet, on a vu un désinvestissement majeur de l'agriculture depuis 20 ans. C'est plus une priorité, notamment pour nos politiques, et ça aussi, c'est un vrai enjeu.
Et pour nous, les consommateurs, Bertrand Schmitt, qui se soucie finalement de comment est produit ce que nous avons dans nos assiettes ?
Oh, je pense qu'il y a une frange de plus en plus importante de population qui commence à s'en préoccuper.
Majoritairement au supermarché quand on est à la caisse.
La majorité d'entre nous passe par le prix, et quels que soient les signaux de qualité ou quelles que soient les qualités, si tant est qu'elles soient plus chères, eh bien, elles passeront moins facilement sur le marché. Oui. À peu près 98% de la population va vous répondre que la qualité est importante.
Et au
moment de payer, il n'y en a que 10% qui auront les moyens de le faire.
Alors, quelle agriculture pour nourrir la planète ? Faut nous appeler, les voisins et les voisines, où que vous soyez, 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à un auditeur. Daouda nous appelle de Conakry, en Guinée-Conakry. Bonjour Daouda.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons. Est-ce que je crois que vous venez d'une famille d'agriculteurs, hein, c'est bien ça, bien que vous viviez en ville.
Oui, tout à fait. Je vis exactement à Conakry, dans la capitale guinéenne, où mes arrière-grands-parents vivent à l'intérieur du pays. Ils sont tous des agriculteurs, mais malheureusement, mes arrière-grands-parents-là n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est pourquoi, si vous parlez de l'agriculture, je suis intéressé et donner un témoignage, quoi.
Mais alors, comment vivent-ils, du coup ?
Bon, de fait, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas une technique d'acquisition de terre, il n'y a pas une technique agricole pour rentabiliser davantage leur rendement. Ils sont obligés, à mi-saison, de tendre la main à ceux qui sont en ville. Par exemple, chez moi, c'est mon père qui les assiste des fois, qui est fonctionnaire à Conakry ici. Malgré leur statut d'agriculture, ils sont obligés de tendre la main en ville, à la ville.
C'est votre père, fonctionnaire, qui fait vivre vos grands-parents et arrière-grands-parents agriculteurs en Guinée.
Oui, tout à fait, parce que leur métier, leur travail ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins toute une année.
Et parallèlement, vous avez dit au Standard qu'à Conakry, certains font leur propre potager pour ravitailler le quartier ou la famille.
Tout à fait, c'est à Conakry ici, c'est pas caché. Si vous sillonnez la ville de Conakry vers la haute banlieue, vous voyez des potagers qui prolifèrent. Ces potagers-là jouent un rôle essentiel pour ravitailler certains marchés de Conakry.
Oui. C'est quand même incroyable, hein, des agriculteurs qui ne peuvent pas vivre de leur métier loin de la ville et ceux en ville qui cultivent pour avoir un petit subside et pour avoir des denrées alimentaires moins chères. On se demande quand même si on ne marche pas sur la tête. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Daouda. Je voudrais qu'on passe la parole à Koulingar qui est à N'Djamena. Non, pardon, c'est Malolo. C'est Malolo qui est à Pointe-Noire au Congo. Brazzaville. Bonjour Malolo.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Nous vous écoutons, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, ça c'est le numéro de téléphone pour tous les autres qui veulent participer au débat. Quelle agriculture pour nourrir la planète ? Quelle est la situation chez vous Malolo ?
Alors déjà, en guise de présentation, je voulais juste dire que je suis responsable commercial d'une entreprise qui s'occupe des intrants agricoles. Donc je suis en relation...
Alors les intrants agricoles, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, ça comprend les engrais, les pesticides, hein, tout ce qu'on met, et les semences, tout ce qu'on met dans la terre en gros. Hein.
Surtout les semences en fait.
Surtout les semences, exactement. Alors le Congo en fait, puisque j'appelle du Congo Brazzaville, c'est un vrai paradoxe, parce qu'on a beaucoup d'étendues de terre, on a un relief qui est très favorable, on a un climat qui est également très très bon. Pourtant, paradoxalement, on importe environ 70 à 80% de nos denrées alimentaires. C'est-à-dire que ça part de la pomme de terre jusqu'à l'oignon, en passant par les œufs et le poulet. Bon, pourtant les agriculteurs, c'est pas ce qui manque dans le pays. Et voilà, il y a donc, à mon avis, un manque de volonté quelque part d'aider les gens à produire localement et à avoir une meilleure agriculture.
Alors vous achetez par exemple des œufs du Brésil, c'est ça vous au quotidien ?
Exactement. Donc les éleveurs qui sont ici, qui produisent des œufs, se retrouvent en arrivant au marché avec des œufs qui viennent du Brésil et qui sont moins chers que les œufs produits localement. Donc soit ils se plient, donc ils acceptent de vendre à perte, ou soit ils font le bras de fer et généralement ils perdent parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits. Donc c'est un gros paradoxe.
Merci beaucoup Malolo de nous avoir appelé. Merci à vous les voisins. Je pense que vous plantez bien les problèmes dont sont conscients nos auditeurs dans les villes africaines. Alors décodage, commentaire peut-être oui. Sylvie Brunel, je vous en prie.
Oui, je pense que Daouda comme Malolo mettent l'accent sur le véritable problème des agricultures africaines qui sont potentiellement pourraient être extrêmement performantes, mais aujourd'hui, souvent, les rendements sont faibles. On est à moins d'une tonne de céréales par hectare. Ce qu'on appelle les filières, c'est-à-dire ce qui permet de transporter le produit et l'acheminer dans les villes, fonctionne mal. Donc, on se retrouve dans des situations de grande précarité pour les petites productions familiales paysannes. Vous savez, on dit toujours que si l'on veut résoudre le problème de la faim dans le monde, c'est partout pareil. Il faut la paix. La paix parce que quand il y a la guerre, comme au Sud-Soudan, les gens meurent de faim. Il faut des bons prix, des prix qui soient rémunérateurs
là,
pour l'agriculteur.
En l'occurrence, les auditeurs qui ne nous appellent pas de payer en guerre. Hein.
Non, mais c'est un problème général dans les pays où on souffre de la faim. Il faut des bons prix. Parce que si l'agriculteur ne peut pas vendre à un prix rémunérateur, il ne peut pas investir dans son agriculture. Il faut de bonnes politiques, c'est-à-dire qu'il faut soutenir l'agriculture. S'il n'y a pas de pluie, bon, c'est pas le cas au Congo, mais au Tchad, c'est le cas. Si les pluies ne sont pas là, il faut des puits, donc de l'irrigation. Et puis, il faut de la sécurisation foncière, ce qu'on pourrait appeler de la propriété. Sinon, on est perdu, on perd sa terre. Et parfois, la sécurisation, ça passe par la protection. La protection de l'agriculture.
Les fameux 5 P. Hein, P, pluie, propriété, politique, prix. Maureen Joran.
Je pense que Malolo a aussi souligné un autre élément qui est très important, c'est la dépendance aux importations que connaissent aujourd'hui de nombreux pays africains, qui passent notamment par le fait qu'on a insuffisamment investi et permis qu'il y ait une production dans les pays, mais qui passent aussi par des choix de production. On voit qu'il y a beaucoup de pays africains qui se sont spécialisés sur des productions agricoles destinées à l'exportation des produits de rente. On pourrait parler du cacao en Côte d'Ivoire, on pourrait parler de l'huile de palme, qui est vraiment en train de connaître un fort développement en Afrique, qui est la deuxième cause d'accaparement de terres aujourd'hui dans le monde. Donc il y a aussi ces choix, ces spécialisations de production dans certains pays qui ne permettent pas d'avoir la diversité alimentaire et donc qui obligent à reposer sur des importations. Et le cas des œufs du Brésil fait tristement écho à un autre cas que le CCFD avait porté avec ses partenaires sur le Cameroun, sur des importations de morceaux de poulet à bas prix, congelés depuis la France et l'Union européenne, qui avaient complètement déstructuré la filière locale de poulet. Donc on voit que c'est des choses qui
se
répètent.
C'était le cas aussi autrefois au Sénégal, hein, sur la filière poulet.
Exactement, c'est des produits qui peuvent être différents, mais finalement c'est le système et la structure de fonctionnement de nos marchés aujourd'hui qui amènent à ces défaillances.
Bertrand Schmitt.
Donc deux réactions. Une première sur la question des prix et de la répartition géographique des productions au sein d'un même pays. C'est pas tout à fait étonnant qu'il y ait des potagers en périphérie des villes, puisque la plupart du temps on retrouve les ceintures vertes qu'on a connues ici et qui ont un petit peu disparu. Donc cette répartition géographique des productions n'est pas du tout surprenante. Par contre, ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est d'être obligé de transférer des revenus de l'urbain vers les paysans. Et là, c'est vraiment un problème de prix, ou en tout cas, si c'est pas... Parce que le problème du prix, c'est le problème du prix de l'alimentation au bout. Et donc, c'est cet écart que certains pays cherchent à minimiser au maximum, d'avoir des prix alimentaires les plus bas possibles. Et plutôt que de le faire sous forme de politique alimentaire, ils le font sous forme de contraction des prix à la production agricole. Et mon deuxième point, si je peux me permettre, c'est sur la souveraineté alimentaire. Dans un exercice récent fait par des collègues de l'INRA et du CIRAD, il y a eu cette hypothèse qui a été testée de ramener chacune des grandes régions du monde à une consommation très proche, la plus proche possible de leur production locale. Alors, effectivement, ça donne des choses. Il faut avoir en tête que ça donne des révolutions agricoles énormes dans certains pays. Prenez l'Argentine et le Brésil. Il faut tout changer l'agriculture pour arriver à cette hypothèse-là.
Oui, parce que ce sont des pays où on produit en très grande quantité, sur de très grandes étendues, donc pas aux portes des villes.
Et on produit en très grandes étendues des produits qui ne sont pas destinés à la population locale, qui sont surtout destinés à l'export. Prenez le soja. C'est ça qui est massif, en fait. Et malgré, même si on fait cette hypothèse-là, il faut avoir en tête qu'il faut quand même du commerce international pour arriver à équilibrer, parce qu'il y a des pays, il y a des zones qui n'arriveront pas.
Vous parliez de commerce, je voudrais qu'on revienne à la France, puisque dans quelques jours s'ouvre le salon de l'agriculture. Xavier Belin, le président de la FNSEA, est décédé brutalement dimanche dernier. Il représentait le grand syndicat des agriculteurs français, mais il était aussi à la tête d'un groupe industriel d'huiles alimentaires. Paysans et hommes d'affaires, est-ce que c'est incompatible ou souhaitable pour l'avenir des agriculteurs en général ?
Vous savez, un paysan, il faut qu'il soit stratège, il faut qu'il soit climatologue, il faut qu'il soit businessman. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il vende. Quand vous produisez, déjà, il faut que vous adaptiez au changement climatique, vous ayez des bonnes semences. Tout à l'heure, on avait Malolo qui parlait des intrants à Pointe-Noire. Donc, il faut qu'il ait à la fois une production qui soit rémunératrice, mais il faut aussi qu'il puisse la transformer. Parce que quand on vend des produits bruts, on est soumis complètement à la fluctuation des cours des matières premières. On a une faible part de la valeur de cette production. Donc, il est normal que dans le monde entier, les agriculteurs s'organisent en coopératives, en syndicats, pour essayer de récupérer cette valeur. Et quand on parle de Xavier Belin, eh bien, c'est le groupe Avril, ça joue un très grand rôle en Afrique, par exemple, sur la transformation des oléagineux. Quand vous êtes très pauvre, vous mangez quoi ? Vous mangez surtout des hydrates de carbone, c'est-à-dire des céréales, des tubercules. Quand vous vous enrichissez un peu, vous mettez des matières grasses. C'est toutes ces huiles qui sont très importantes en Afrique.
Et décriées aussi pour la santé. Mais bon,
oui,
ça,
non, non, mais attendez,
problème.
À ce stade, on n'en est pas encore là. Ce sont des gens qui ont besoin de pouvoir mettre du beurre dans leurs épinards, pour reprendre une expression bien connue en France. Et puis, quand vous êtes encore plus aisé, quand vous allez dans les villes, eh bien, vous voulez quoi ? Des œufs, du lait, du fromage, des yaourts, des viandes. Mais on en est encore très loin dans le monde. Aujourd'hui, chaque habitant du monde consomme en moyenne 40 kilos de viande. C'est très faible par rapport, par exemple, aux États-Unis qui sont à 120 kilos. Voyez, donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une grande partie du monde est déficitaire dans ces produits d'origine animale qui contribuent à la longévité, à la sécurité alimentaire. Nous sommes dans le trop, mais eux, ils sont dans le trop peu pour l'instant.
Ça veut dire pour vous, Maureen Joran, parce que si j'ai bien compris Sylvie Brunel, le débat, l'opposition industrie agroalimentaire avec derrière une agriculture d'exportation et puis l'agriculture artisanale de proximité, il ne faut pas les opposer. C'est bien ça. Pour vous, Maureen Joran, vous êtes d'accord ou pas ?
Alors, moi, je ne vais pas parler en termes d'opposition, parce que je pense qu'en effet, aujourd'hui, il faut dépasser ce débat opposition agriculteur-consommateur, etc. Opposition des modèles. Mais partir de constat finalement de ce qu'on voit, comment se font les choses aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui s'installe véritablement une concurrence déloyale entre les agricultures familiales et paysannes et les grands investisseurs du secteur agroalimentaire, parce que les investissements publics, les crédits vont aux grands investisseurs et pas aux agriculteurs familiales.
Parce qu'ils savent faire du lobby politique.
Des défiscalisations, parce qu'ils savent faire du lobby politique, parce qu'ils sont appuyés également par les États du Nord et notamment, par exemple, la France via le G8, incite les pays africains à créer ce qu'on appelle un environnement favorable aux investissements dans l'agriculture, aux investissements privés. Environnement favorable donc pour l'agro-business, mais défavorable pour les petits paysans. Les règles ne sont pas les mêmes pour les deux, ils n'ont pas les mêmes possibilités. À partir du moment où on part sur une concurrence déloyale, comment peut-on
donc
avoir...
Donc ces deux mondes peuvent coexister ou bien le problème... Premier monde, les gros ont forcément vocation à détruire les autres.
La coexistence aujourd'hui, excusez-moi, n'existe pas. Le développement des investissements de l'agrobusiness notamment entraîne la disparition des agricultures paysannes. On ne peut pas coexister quand l'activité de l'un nuit à ce point.
À quel pays vous pensez là, par exemple, en ce moment, le cas le plus...
En ce moment, nous, on travaille beaucoup sur le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où on voit qu'il y a des zones qui ont été identifiées par le gouvernement pour développer des investissements de grandes multinationales de l'agroalimentaire, et à qui on dit donc aux petits paysans qui occupaient ces terres et qui, eux, appellent à des investissements publics pour les aider justement à développer leur production agricole, à qui on dit « vous allez laisser vos terres, on va vous en donner un petit peu plus loin, un petit peu moins, et puis les investissements d'infrastructures pour l'irrigation, pour le transport, pour l'accès au marché, eh ben, ils iront vers les exploitations, les grandes exploitations, et puis vous, on essaiera après de vous mettre dans la boucle.
En Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, par exemple, pour la production cacao, sont majoritairement essentiellement de petits propriétaires terriens alors là, qui produisent le cacao exporté.
Bien sûr, alors là on est sur une autre dimension. Quand je parlais du Burkina et du cas de la Côte d'Ivoire, on est sur des plantations plutôt de riz par exemple. Sur le cacao, on a là une autre incidence et quelque chose qui revient beaucoup, ouais. C'est la perte d'indépendance des paysans. On parle d'ouvriers agricoles dans ces plantations.
Tout
finalement.
À fait, et on va y revenir hein, bien sûr, puisqu'on parle des agriculteurs aujourd'hui. Quelle agriculture pour nourrir la planète? Vous restez avec nous, nous revenons juste après le flash. Et bien sûr, vous nous appelez les voisins au 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes sur RFI.
Speakons français.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Quelle agriculture pour nourrir la planète? 750 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Est-ce vraiment dû d'ailleurs à un problème de production agricole? Faut-il produire plus dans les pays pauvres, mieux dans les pays riches où les consommateurs là deviennent de plus en plus exigeants après plusieurs années d'ailleurs de scandales alimentaires en tout genre? On en discute avec vous Sylvie Brunel, géographe, plaidoyer pour nos agriculteurs. Mais alors c'est un no inclusif, hein, c'est tous les agriculteurs de la planète.
1,3 milliard de personnes.
Voilà, qui cultivent la terre dans le monde. Et vous nous le disiez en première partie d'émission, des agriculteurs qui sont soit méprisés dans les pays pauvres, bah parce qu'ils sont encore plus pauvres que les pauvres, ou bien défiés, qui suscitent la méfiance surtout dans les pays riches, soupçonnés de nous empoisonner, notamment avec des pesticides. Maureen Joran, vous appartenez à l'ONG CCFD Terre Solidaire, et Bertrand Schmitt, vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National pour la Recherche Agronomique. Et bien sûr, nous vous donnons la parole, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Koulngar, qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
Alors je crois que vous voulez nous parler du problème du manque d'infrastructures dans l'agriculture dans votre pays. Vous avez des parents agriculteurs et vous avez travaillé avec des agriculteurs en tant qu'ingénieur, c'est bien cela?
Effectivement, j'ai travaillé avec des agriculteurs et moi-même j'ai des parents agriculteurs. C'est que les gens... La au Tchad, c'est vraiment de l'agriculture archaïque. Les gens n'ont pas des infrastructures de stockage. Et il y a l'autre...
Quand vous parlez du problème du stockage, vous voulez dire qu'il y a une partie de la production alimentaire qui pourrit littéralement dans des greniers, soit parce qu'il y a des fuites et que la pluie peut pénétrer. Simplement des rongeurs, ajoute Sylvie Brunel. C'est bien cela que vous voulez dire.
Oui, c'est bien ça. Il y a dans certains villages où il y a un incendie, c'est tout le village qui est parti. Donc les gens perdent des stocks de céréales. Vous savez, s'ils ont des magasins de stock en des matériaux durables, ça va leur permettre de conserver bien leur nourriture.
Vous vouliez aussi souligner un problème, un vrai problème d'irrigation pour les cultures.
Oui, l'irrigation. Au Tchad, les gens continuent seulement à travailler avec de l'eau pluviale. Il n'y a pas de système d'irrigation moderne. L'utilisation de l'autre des intrants n'est pas encore entrée suffisamment dans l'agriculture.
Vous dire qu'on arrose avec l'eau de pluie au lieu, par exemple, d'utiliser des cours d'eau, fabriquer de petits barrages, des choses comme ça?
Effectivement, c'est ça, c'est bien.
Et vous souhaitiez également souligner le problème des conflits récents entre agriculteurs et éleveurs?
C'est même un grand problème ici au Tchad. À chaque fois, il y a de l'affrontement entre les éleveurs et les agriculteurs. Sachant que les éleveurs ne respectent pas les couloirs de transhumance, et puis il y a l'autre incompétence également des autorités administratives qui prennent part à ce genre de conflits. Et cela entraîne toujours la mort d'hommes.
Et qui sont liés d'ailleurs aussi à des conflits plus généraux et à des déplacements de population. Je pense à ce qui se passe notamment en Centrafrique. Ce conflit entre agriculteurs et éleveurs concerne plusieurs pays sur le continent africain. C'est un vieux conflit où on accuse finalement le bétail de piétiner les cultures, hein, Sylvie Brunel.
Oui, ce que dit Koulngar est très important parce qu'il met l'accent sur une grande fragilité de certaines agricultures africaines. Un tiers de la production en moyenne est perdue, soit au moment de la récolte, c'est-à-dire avec les ravageurs. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé des pesticides, mais protéger les récoltes des pestes, c'est absolument essentiel. Et par exemple, au Bénin, beaucoup d'agriculteurs déplorent de ne pas avoir de ce qu'on appelle les CID, insecticides, fongicides, pesticides, parce que eh bien, les ravageurs sont dramatiques. Et puis, l'autre problème, c'est que 95% de l'agriculture africaine est pluviale, c'est-à-dire qu'elle dépend des pluies. Or, le changement climatique touche particulièrement certaines régions proches de l'équateur, tout le milieu tropical, et cela va être une tension supplémentaire pour ces agricultures. Enfin, Kungar a raison aussi quand il aborde cette question des tensions foncières, parce que quand on parte du Sénégal jusqu'à la Somalie, toute la zone de contact entre les éleveurs et les cultivateurs est une zone de tension foncière, de tension pour l'utilisation de la terre, et ça s'aggrave avec le changement climatique, parce que les éleveurs sont de plus en plus privés de l'accès au pâturage et à l'eau, et les agriculteurs, ils ont besoin de sécuriser leurs champs. Et là, on revient à ce que disait Morel-Jorand sur le fait qu'il fallait sécuriser sur le plan foncier la propriété, l'accès à la terre.
Oui, alors la sécurisation sur le plan foncier, je ne sais pas si vous comprenez le problème de la même façon, Maureen Jorand, parce que quand les grands bailleurs de fonds disent qu'il faut absolument des titres de propriété pour la terre, ça peut être à double tranchant pour les propriétaires dans les pays pauvres. Hein. Alors, ça veut dire aussi une possibilité pour des investisseurs étrangers d'acheter massivement des terres, alors à partir du moment où il y a des titres.
En effet, pour nous, sécuriser, ce n'est pas titrer. Et la communauté internationale, d'ailleurs, ne dit pas sécuriser, c'est avoir des titres de propriété. Et justement, je pense que les Nations Unies ont fait un grand pas en 2012 en développant un texte qui s'appelle des directives volontaires pour la gouvernance foncière. Je vais réduire le titre qui est très très long et qui reconnaît différents types de sécurisation du foncier et différents types de droits. Et on parle aussi des droits coutumiers et collectifs qui sont un des éléments aussi.
C'est-à-dire qu'un riziculteur malien, on peut lui sécuriser sa terre sans qu'il en soit propriétaire en réalité.
Exactement. Et là, en fait, ça c'est aussi très dépendant, j'ai envie de dire, de l'historique de la gestion foncière du territoire. Vous avez des endroits où depuis très longtemps, on a morcelé le foncier, on se le passe, j'ai envie de dire, de génération en génération.
Ce sont en fait des sortes de baux amphithéotiques. Voilà. Hein, c'est ça, on a la terre pour tant d'années, on pourra la transmettre à ses enfants.
Mais vous avez aussi au Mali des gestions plus communautaires, villageoises, où on questionne collectivement quelle utilisation de la terre on souhaite faire et à qui on la confie. Et une fois que cette personne, par exemple, va décider de partir ou va simplement décéder, on rediscute collectivement de cette gestion collective de la terre. Et donc pas forcément besoin de lui donner un titre de propriété, c'est l'engagement collectif qui a valeur de sécurisation de son activité sur cet espace foncier.
Bertrand Schmitt, là, sur l'aspect de la sécurisation.
Mais ça peut être un frein à la modernisation aussi, parce que quand la terre est collective, coutumière, eh bien, on hésite parfois à faire des investissements pour améliorer le sol, améliorer la plantation d'arbres, etc.
Et ce sont de petites parcelles, qui se prêtent moins à la modernisation.
Parce que, c'est compliqué, ça peut être un frein à la modernisation.
À faire arriver de grands engins, par exemple.
Ah oui, alors les CUMA, les coopératives d'utilisation du matériel agricole, ont tout un avenir important en Afrique, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre des machines à la disposition de l'agriculteur individuel. Donc il faut cette organisation que représente le CCFD, l'AFDI, les CUMA, etc. Mais il ne faut pas oublier que si nous ne travaillons pas sur des sols constants. Nos propriétés, elles ont été améliorées, amendées, etc. Et souvent, quand la terre est collective, qui va améliorer la terre? Vous voyez, ça, c'est un vrai problème.
Alors, vous dites la terre a été améliorée. D'autres disent le sol est mort en France.
Oui, mais
le sol est mort parce qu'il n'y a plus de...
C'est totalement faux. Sinon, il n'y aurait pas des rendements de 7 tonnes de blé, 10 tonnes de maïs. Si le sol était mort, la terre ne produirait pas. Or, nous sommes sur 5% de la superficie agricole mondiale. C'est tout petit. Nous sommes le cinquième exportateur. Il faut penser qu'un hectare de blé sur 5 en France nourrit une région structurellement déficitaire qui est le Proche et le Moyen-Orient, et que 4 litres de lait sur 10 vont approvisionner aussi des régions où les vaches ne donnent qu'un litre de lait par jour. Alors, il faudrait que les agriculteurs du Sud puissent devenir des consommateurs. Il faudrait qu'ils aient un pouvoir d'achat pour pouvoir renforcer ces échanges alimentaires, dont Bertrand Schmitt disait tout à l'heure que c'était un puissant facteur de sécurité alimentaire.
Vous nous parliez justement, vous reveniez sur le Nord, les pays riches, les débats sur le bio qu'on a au Nord, on ne va pas revenir là-dessus, mais est-ce que c'est une ineptie dans des pays où on a encore faim, Sylvie?
Non, ce n'est pas du tout une ineptie. Les agriculteurs du Sud pourraient tout à fait passer directement à la transition agroécologique. D'ailleurs, ils produisent de façon extrêmement, entre guillemets, naturelle, mais penser que, comme on le dit en Europe, ou par exemple en France, où le bio ne représente que 5% des exploitations agricoles, penser que généraliser le bio résoudra le problème de nos agriculteurs est un leurre, parce qu'aujourd'hui le bio se vend beaucoup plus cher que le conventionnel, et que les 750 millions de personnes qui souffrent de la faim dont vous parliez tout à l'heure, il y en a 9 millions en France qui souffrent de la faim, ce sont des gens pour lesquels le prix de la nourriture est une donnée essentielle.
Non mais c'est un leurre, enfin, on a quand même plus 20% d'alimentation bio en un an dans le panier de la ménagère en France.
Plus 20%, ça ne veut rien dire puisque vous partez de 5%.
D'accord, c'est facile de progresser quand on part de rien.
Oui, quand on part de très bas. C'est un leurre de penser que généraliser le bio nourrira
Maureen
la France et le monde.
Pour les pays du Sud, oui, ou Bertrand Schmitt.
Non mais j'avais envie de réagir sur deux points en fait, sur le point des terres dégradées. C'est vrai qu'en France, notre terre reste productive, mais sur l'ensemble du monde, il y a quand même 12 millions d'hectares par an qui deviennent improductives. Et c'est un vrai souci. Alors,
qui deviennent improductives, c'est-à-dire comment, pourquoi?
C'est un vrai souci parce qu'on ne sait pas très bien quelles en sont les causes. Il y a des causes de surexploitation, il y a des causes qui sont liées au changement climatique, il y a des causes qui sont liées à... un mauvais entretien, etc. Donc là, il y a un vrai...
Ces 12 millions de terres qui deviennent improductives, qui ne font plus rien pousser, elles se situent où?
Elles sont principalement en Afrique, mais elles sont aussi beaucoup sur Afrique du Nord et Moyen-Orient. Alors là, il y a la partie conflit, mais il y a aussi la partie changement climatique. Après, sur l'opposition agriculture conventionnelle, agriculture bio, moi, c'est une opposition qui m'agace. Il y a un continuum entre une agriculture hyper utilisatrice d'intrants et une agriculture sans intrants. Et dans ce continuum-là, il y a deux figures qu'il faut regarder de plus près. Il y a celle de ce qu'on appelle l'intensification durable, qui est en fait une amélioration du conventionnel, mais en limitant au maximum l'utilisation des intrants, et notamment dans ses impacts environnementaux et dans son utilisation des ressources. Et puis après, il y a toute l'utilisation des mécanismes biologiques et écologiques, sans aller jusqu'à l'agriculture biologique, qui s'appelle l'agroécologie, et donc tous les services de régulation. Alors, ça nécessite quand même...
Mais ça, pour le consommateur, c'est quand même difficile à comprendre. Hein. L'entre-deux, le consommateur, au marché ou ailleurs, soit il y a un label bio, soit il n'y en a pas, et
Parce que vous raisonnez label.
L'entre-deux, le consommateur ne comprend pas. On nous dit que les fruits et les légumes en France sont ceux qui sont produits avec le plus de pesticides, par exemple. Ouais, donc si on n'en veut pas, c'est bio ou c'est rien d'autre. Non, c'est ce qu'on explique en tout cas.
Mais c'est une erreur parce que le bio demande aussi des traitements. Ce sont des traitements considérés comme non chimiques, mais c'est faux.
Sans OGM et sans pesticides, en tout cas, pour avoir le label en principe.
Mais vous savez, dans le bio, si vous ne traitez pas, vous n'avez pas de récolte, ou vous avez une récolte qui ne se conserve pas. C'est tout le problème. Et la question,
il y a plus d'exploitants aujourd'hui, plus 10% là par an d'exploitants qui passent au bio. Donc, s'ils étaient ruinés, les voisins l'auraient vu.
Oui, il y a beaucoup aussi qui renoncent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de récolte et qu'ils ne les vendent pas de façon suffisamment rémunératrice.
La question pour moi, elle est de savoir, est-ce qu'on veut des niches économiques de type agriculture biologique ou une agriculture française, européenne, mondiale, qui soit plus agroécologique. Donc sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de notre territoire, veut-on une agriculture qui soit respectueuse dans l'environnement? C'est ça qui est derrière l'agroécologie. Ce n'est pas une question de label. Et la question du label est une question de niche économique. Donc, ce qui m'importe, c'est qu'on ait une agriculture qui soit plus productive, parce que c'est ça l'enjeu. Il faut augmenter de 40% la production agricole mondiale
pour nourrir la planète
d'ici 2050.
D'ici 2050, pour nourrir la planète avec des régimes alimentaires équilibrés. C'est-à-dire, nous on diminue et d'autres augmentent.
Alors on va en parler justement. Faut-il manger différemment demain pour pouvoir être tous nourris? Mais avant cela, Maureen Jorange, vous souhaitiez réagir.
Oui, parce que ce débat autour du bio ou pas bio, finalement...
Est-ce qu'il a un sens dans les pays du Sud? C'était la question que je posais, ou est-ce qu'il...
En fait, la question, c'est... Il y a du bio agro-industriel aujourd'hui qui nous vient d'Amérique latine, donc qui va avoir voyagé, qui va avoir beaucoup émis, et qui finalement répond pas à une partie
du
problème qui a émis du CO2. Donc c'est plutôt une notion de système alimentaire, et de regarder de là où on produit jusqu'où on consomme. Et si c'est du bio localisé, dans un système alimentaire localisé, territorialisé, alors là, c'est franchement tout bénef. Mais si c'est du bio qui est issu d'une monoculture intensive qui est située à des milliers de kilomètres et qui demande du transport qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre, alors là, en effet, si l'objectif du bio, c'est aussi d'avoir un moindre impact sur l'environnement, c'est raté.
Oui, alors en tout cas, les œufs du Brésil dont nous parlait notre auditeur à Pointe-Noire, c'est raté sur tous les plans. Là.
Bah, même s'ils sont bio, pour le coup, c'est quand même pas tout bénef pour la planète.
Ouais, mais sinon, pour les solutions des agriculteurs au sud, pour vous, Maureen Jorand, comment se positionne le CCFD Terre Solidaire, votre ONG ?
Alors là-dessus, nous aussi, on est vraiment sur un regard sur ces systèmes alimentaires et cette transition agroécologique. Mais alors, c'est un mot aujourd'hui qui est utilisé par beaucoup de monde. Et
oui, nous, on ne voit pas très bien concrètement
des notions
ce que ça
et
veut
des
dire.
Éléments différents. Je pense que déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Afrique, il y a déjà beaucoup d'agricultures qui sont biologiques par essence.
Par la force des choses, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des intrants.
Par la force des choses, mais aussi par la force des savoirs traditionnels et des connaissances qu'on ces acteurs pour pouvoir développer des agricultures qui soient viables et rentables et qu'il faut soutenir pour pouvoir accélérer finalement ce mouvement de transition et de renforcement de ces agricultures. Donc déjà, ça c'est un premier élément. Et après, le deuxième élément pour la consommation africaine, là encore, c'est relocaliser, avoir des systèmes alimentaires qui répondent à la fois aux enjeux environnementaux, mais également aux enjeux de revalorisation de l'agriculteur, de son travail et donc de sa rémunération, et aussi les enjeux culturels. L'agriculture et l'alimentation, ça a aussi une dimension culturelle qu'il faut considérer, et donc avoir des régimes alimentaires qui soit respectueux et dans la lignée un peu traditionnelle, j'ai envie de dire, des territoires. Et donc ça, c'est pas en important des choses qui viennent de l'autre côté de la planète qu'on va pouvoir maintenir ce type de culture.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quelle agriculture pour nourrir la planète aujourd'hui ?
7 milliards de voisins. Nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler. On va se dire la vérité.
Mamadou nous appelle d'Aulnay en région parisienne. Bonjour Mamadou.
Bonjour 7 milliards de voisins.
Vous avez la parole, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Vous vous intéressez à l'agriculture sur le continent africain ?
Tout à fait. Moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis d'origine du Mali, je suis émigré en France. Mon père m'a appris quelque chose depuis tout petit. J'ai pas l'âge de 3 ans. C'est-à-dire, pendant les vacances scolaires, on allait au village pour cultiver, pour nourrir toute la famille. Mon père a nourri la famille toute sa vie comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on s'est émigrés parce que la terre ne produit plus au Mali. Et malgré ça, on a mis des moyens considérables dans des matériels, dans des outils pour produire plus, pour espérer produire plus. Mais à la récolte, c'est vraiment zéro, quoi. L'année dernière, j'ai pris mes vacances scolaires avec mes enfants. On est parti jusqu'au village pour apprendre ça. Mais au final, c'est vraiment décevant.
Votre famille a des parcelles dans quelle région au Mali, Mamadou ?
La région des Kayes, pas très loin du cercle de Guéma, arrondissement de Guéma, Guéma Kamatingué.
Donc ça veut dire que votre famille continue de faire des investissements, bien que vivant en France, au village, pour faire produire la terre ?
Tout à fait. C'est des moyens, c'est considérable. Moi, à l'époque de mon père, c'était avec 4 bœufs. Aujourd'hui, on a acheté 10 bœufs, des chevaux, pour vraiment cultiver plus, mais c'est décevant.
Vous tentez de cultiver quoi ?
Du mil. Mais cette année, j'ai proposé d'échanger parce que quand on cultive des mil, lorsque ça pousse bien, il y a des insectes qui viennent, qui détruisent tout. Donc, j'ai proposé cette année de cultiver l'arachide. Heureusement, on a pu recoter un peu d'arachide. Mais les mil, il y a eu zéro. Si j'ai dit c'est zéro, c'est vraiment zéro.
Est-ce que vous savez pourquoi ?
Ben c'est parce qu'il y a les réchauffements climatiques, il ne pleut plus assez. À peine la récolte commence à pousser, la pluie cesse. Il n'y a plus de pluie. Donc c'est vraiment désespérant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup. Ben moi, mon village, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans ça. Mais si je regarde les villages alentours, on va dans les villages, on ne voit plus personne. Tout le monde est dans les grandes villes. Pour donner une anecdote, j'étais en vacances en 2008, je suis allé dans mon village et j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'étais très déçu. Et à l'arrivée à Bamako, il y a eu un décès. Je suis allé au décès d'un parent, mais j'ai vu qu'il y avait tout le monde.
Oui, ils étaient tous à Bamako.
C'est vraiment dramatique.
Merci de nous avoir appelé, Mamadou, un immigré malien qui cultive à distance. Hein,
oui, via et qui nous rappelle ce que disait Djibril tout à l'heure, hein, de Caes, qui disait « Mais personne ne veut rester un petit paysan ». Vous vous souvenez, Djibril, en début d'émission, nous disait ça. On a vraiment un risque de s'acheminer vers une agriculture sans paysan dans le monde entier, parce que ça devient, quand c'est trop dur, trop pénible, trop précaire d'être paysan, les gens vont vers les villes.
Alors, néanmoins, des ONG comme CCFD Terres Solidaires soutiennent la création de moyens, de systèmes alternatifs, de modèles alternatifs, qu'on pourrait même qualifier de contre-modèles, non, Maureen Joran, aujourd'hui?
Alors, bah, par rapport aux grandes tendances qu'il y a d'investissement dans l'agriculture en Afrique, en effet, le soutien à une agriculture paysanne et agroécologique fait un peu office de contre-modèle aujourd'hui.
Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que vous soutenez?
Ah bah, nous, très clairement, c'est déjà revenir sur des productions agricoles et alimentaires qui répondent aux besoins des populations locales. C'est-à-dire pas de soutien, comme on disait, aux cultures de rente type cacao, qui sont déjà fortement développées et soutenues. Mais aussi, quand on parle d'huile de palme, etc. Nous, ce qui nous soucie, c'est que l'huile de palme, aujourd'hui, ça va beaucoup dans le réservoir de nos voitures et pas tellement, finalement, sur les marchés africains qui importent souvent d'ailleurs. Donc, c'est déjà produire pour se nourrir et localement. Et c'est aussi avoir... bien sûr, un modèle agricole qui permette aux paysans de faire des choix dans ses orientations de production, des choix dans ses semences, de pas être imposé par certains types de semences et d'itinéraires techniques, et puis aussi qu'on permette la protection du paysan. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit notamment dans les pays du Nord, mais c'est ce qui risque d'arriver notamment en Afrique, c'est que même si on a des modèles qui permettent une coexistence de différents types d'agriculture, OGM et pas OGM, par exemple au Canada et en Australie, vous avez des témoignages de paysans qui voulaient se mettre dans le bio et qui ont beau depuis 10 ans faire tout ce qu'ils veulent pour faire du bio, le fait que leur voisin ait un champ OGM entraîne une contamination de leur champ et donc ils n'ont pas le choix du type de culture qu'ils veulent faire. Et donc ça, c'est aussi pour nous très important de pouvoir préserver ce choix et de pouvoir l'assurer.
Produire localement en Afrique, vous l'entendez, le témoignage de Mamadou dit, mais nous, voilà, on a investi pour essayer de produire pour le village et ça marche pas, les récoltes sont très mauvaises, du coup les gens continuent de partir.
Mais parce que là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'Afrique a souffert d'un désinvestissement structurel. Juste pour vous donner un chiffre, l'agriculture, ça a représenté 4 à 5% des budgets nationaux des États africains il y a quelques années, alors que c'est 60 à 70% de la population. Donc déjà, il y a un retard à rattraper.
Les agriculteurs sont mal formés, par exemple.
Et il faut des investissements importants pour leur permettre d'avoir des débouchés, pour assurer une irrigation, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces investissements importants ne les ciblent pas eux. Ils ciblent des grands investisseurs. Par exemple, quand l'Agence française de développement annonce dans ses actions pour la sécurité alimentaire un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros pour un terminal frigorifique à Addis Abeba pour exporter des fleurs et des haricots verts, ce n'est pas de la sécurité alimentaire, ça représente plusieurs centaines de millions d'euros. On espérerait que l'Agence française de développement puisse réorienter ces centaines de millions d'euros dans un soutien direct auprès des populations et des agriculteurs.
C'est-à-dire que l'aide des pays du Nord, aujourd'hui, en réalité, ne soutient pas les agriculteurs africains, c'est ce que vous voulez dire?
D'une manière tout à fait infime, la grande majorité des investissements aujourd'hui vont vers des infrastructures et le soutien à des grands investisseurs.
Bertrand Schmitt, vous dites, en tant qu'économiste à l'INRA, vous dites, demain, si on veut nourrir la planète, il faut surtout qu'on change notre façon de manger. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tout le monde doit changer, en fait. C'est-à-dire qu'actuellement...
On ne mange pas tous la même chose, hein, à l'heure actuelle, les 7
on
milliards.
On ne mange pas tous la même chose, tous les 7 milliards. Et l'ensemble de la planète, et certains pays particulièrement, supportent ce que l'on appelle le double fardeau nutritionnel. À savoir que il y a, vous le signaliez tout à l'heure, 700 millions de personnes qui, dans le monde, sont sous-nutries. Il faut y ajouter quand même 2 milliards qui sont en carence sur certains micronutriments. Et ceux-là sont dans des situations très délicates. De l'autre côté, on en a 2 milliards qui sont en surpoids. Et ils ne sont pas uniquement dans les pays du Nord, ils sont aussi dans les pays émergents et dans les pays du Sud. Et donc dans ces pays-là, les politiques publiques doivent à la fois gérer les problèmes de santé liés à la sous-nutrition et les problèmes de santé liés à la surnutrition.
Donc il faut manger quoi demain? On nous dit qu'en France, en ce moment, il y a une pénurie de beurre, par exemple.
Et ça coûte au niveau social mondial, ça coûte 3 800 milliards de dollars, entre 3 800 et 4 800, c'est-à-dire 4 à 5 % du PIB mondial.
Ça, c'est l'économiste qui parle.
Ah ben oui.
Mais demain, il faut manger quoi, donc?
Alors, vous écoutez les nutritionnistes, il faut manger de tout, un peu de tout, de façon équilibrée. Voilà, c'est tout. Mais en faisant ça et en utilisant des productions locales au maximum, de toute façon, on arrive à couvrir, mais il faut augmenter de toute façon, la production agricole mondiale.
Donc moins de viande, mais surtout pas disparition.
Moins de viande chez nous, moins de produits animaux chez nous. Moins de produits animaux chez nous, mais plus ailleurs. Et quand ce n'est pas des produits animaux, puisqu'il y a des pays, prenez l'Inde, sur lesquels vous n'allez pas faire augmenter la part des produits animaux comme chez nous, ça va être sur des huiles ou sur du sucre que la transition nutritionnelle va se faire. Donc voilà, donc y a un besoin de convergence pour une augmentation des régimes alimentaires dans les pays qui en manquent, de nutritionnellement, et un rééquilibrage sur des pays comme les nôtres.
Oui, Maurice Joran, ça c'est pas gagné, hein, parce que en Afrique, par exemple, quand on voit le prix de la viande, même le prix des fruits et légumes, d'ailleurs, en Afrique, est très élevé.
Mais même chez nous. Hein.
Mais je pense que derrière, c'est la question de l'accès à l'alimentation et cette vision qu'on peut avoir d'une, à la fois, on va dire, la junk food, mais aussi dans certains pays du Sud, l'accès à la viande carnée comme un signe aussi de extérieur, j'ai envie de dire, de richesse d'une certaine manière. Il faut aussi revenir sur, voilà, de quels apports avons-nous besoin. Je pense que la notion de solidarité et d'équilibre est extrêmement importante dans la question des régimes nutritionnels, c'est-à-dire que ce que je consomme moi aujourd'hui ici en France nuit à mon voisin africain, asiatique ou d'Amérique latine parce que j'aimais beaucoup pour consommer ceci et que lui en est en défaut. Il faut rééquilibrer en effet sur ces questions-là. Mais alors c'est pas un équilibre du commerce mondial, mais c'est rééquilibrer les productions au niveau local.
Sylvie Brunel.
Oui, les modèles alimentaires sont extrêmement variables suivant les pays. Ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'on peut, il faut essayer de privilégier une production nationale, c'est-à-dire des producteurs, des petits producteurs familiaux. En France, on a la chance d'avoir une agriculture familiale qui est aussi en danger, comme l'agriculture familiale africaine. Et cette nécessité de repenser nos modèles alimentaires pour privilégier des agriculteurs qui sont sur leur territoire, qui sont fiers de leurs produits, qui accordent beaucoup de soins en les rémunérant correctement, ça doit être une priorité partout, partout, dans le monde entier. Il n'y a pas de différence entre le Nord et le Sud pour ça.
Moderniser une toute petite agriculture familiale en Afrique, c'est possible ?
Bien sûr, c'est même, d'ailleurs, c'est ce que s'emploie à faire un certain nombre d'ONG, mais effectivement, il faut faire attention à ne pas opposer l'agribusiness, dont on a besoin, hein, on en a besoin pour nourrir les mégalopoles, et les circuits familiaux, les coopératives, les syndicats, les ONG, toutes les agricultures sont nécessaires.
On terminera avec le message de Souleymane qui nous dit « Si chacun cultivait sa propre terre, on pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire. » Il a raison, en rentrant du travail, on va tous se mettre à bêcher notre jardin. Merci Souleymane pour le message. Merci à vous Maureen Joran de CCFD Terres Solidaires, Bertrand Schmitt de l'INRA et Sylvie Brunel. Vous publiez Plaidoyer pour nos agriculteurs chez Buchet-Chastel. Merci à vous les voisins pour vos appels et vos messages. J'en profite pour vous signaler que le 3 mars, on diffusera un documentaire, un reportage sur les agriculteurs en France.